EJE Square, littérature, conférences, revue de presse. EJE Square, ensemble pour la petite enfance. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission EJE Square. Lors de la première émission, et à travers notamment l'interview effectuée auprès de Madame Beauvais, directrice du pôle violence faite aux femmes des associations Solfa, on a abordé ce que sont les violences conjugales, ce qui se joue entre la victime et son bourreau, ce qu'est le cycle des violences conjugales et le concept d'emprise, et par quel biais ces victimes peuvent être aidées. Bien que nous l'ayons abordé dans la première émission, je souhaite ici vous proposer d'aller plus loin et mettre le focus sur les impacts des violences conjugales sur la santé physique et psychique des victimes, adultes et enfants. Car c'est en connaissant les risques, les conséquences de ce fléau, que nous nous donnerons les moyens, je l'espère, de le combattre. Il est plus que nécessaire d'accompagner le parent victime de violences conjugales, en l'occurrence ici la maman dans la majorité des cas. Découvrons les conséquences psychotraumatiques des violences, la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique, expliquées par la psychiatre et psychothérapeute Muriel Salmona dans une de ses vidéos publiées sur YouTube.
Les violences sont extrêmement traumatisantes. Elles vont avoir un impact lourd sur la personne, sur le cerveau, et vont générer en fait un ensemble de mécanismes de sauvegarde exceptionnels qui vont être à l'origine de la presque totalité des conséquences psychotraumatiques sur les personnes de ces violences. Le point de départ, c'est justement la sidération. C'est-à-dire que, en fait, face à des violences qui sont terrorisantes, incompréhensibles, impensables, qui n'ont aucun sens, la personne en face ne peut pas intégrer ces violences. Elles font effraction, en fait, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que tout ce qui, en fait, normalement devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles ne vont pas pouvoir parler, crier, se défendre sur le plan psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées. Et on sait que, par exemple, pour les violences sexuelles, plus de 70% des personnes qui subissent des violences sexuelles vont avoir cet état de sidération. Il est d'autant plus fréquent que la personne se retrouve piégée avec des situations complètement terrorisante et complètement aussi impensable, enfin qu'on ne peut pas comprendre, par exemple, comme un proche, comme un conjoint qui va exercer ces violences, et ça va faire basculer la personne dans un état effectivement de paralysie psychique et de paralysie motrice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération, et on le voit, on peut le voir sur les IRM, on voit effectivement les fonctions supérieures qui vont être bloquées. Alors c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié, pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu. En fait, c'est tout à fait malheureusement normal par rapport aux violences qui sont exercées. Et plus l'agresseur va avoir une stratégie où il va être terrorisant, où il va être impressionnant, où il va en fait tenir des propos ou avoir des comportements totalement incohérents, plus la sidération va être importante. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences qui vont avoir, en fait, qui vont être extrêmement traumatisantes pour la personne et vont avoir un impact sur sa santé à long terme, que ce soit la santé mentale et la santé physique. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où les fonctions supérieures sont paralysées, elles ne peuvent plus moduler la réponse émotionnelle. Dans le cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui s'allume en cas de danger, qui fait sécréter par les surrénales de l'adrénaline et du cortisol qui permettent à l'organisme de se préparer à agir, à fuir face à des violences. À partir du moment où cette amygdale cérébrale s'allume comme une alarme et qu'il n'y a pas de réponse, elle va continuer à monter en puissance. C'est-à-dire que le fait que la personne ne réagisse pas, fait qu'elle continue à hurler, en quelque sorte. Mais très rapidement, on va se retrouver avec des doses d'adrénaline et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme et qui vont avoir un effet stress extrême. C'est-à-dire qu'avec un impact sur le cœur et sur le cerveau, ça, on peut mourir de stress et on peut avoir des atteintes neurologiques très importantes du fait d'un excès de cortisol. Et à ce moment-là, le cerveau n'a comme moyen pour permettre la survie de l'organisme, de la personne, que de disjoncter exactement comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage, où il y a des appareils qui risquent de griller. Et du coup, ça va disjoncter pour éviter, pour protéger en fait, les appareils les plus importants. Et pour l'organisme, c'est le cœur et le cerveau. Et cette disjonction se fait avec aussi la sécrétion de drogues dures par le cerveau qui font une sorte de cocktail morphine-kétamine, comme un cocktail morphine-kétamine, qui vont complètement anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. C'est-à-dire que cette disjonction va faire que l'amygdale cérébrale, la structure qui est à l'origine de la réponse émotionnelle, va être bloquée en quelque sorte, et elle ne va plus pouvoir faire sécréter de l'adrénaline et de cortisol, donc il va y avoir un stress qui va s'arrêter. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, ne va plus ressentir d'alarme, elle ne va plus ressentir de stress, elle ne va plus ressentir de douleur. Et ça va lui donner une sensation d'irréalité, comme si elle était spectatrice de l'événement, comme si elle se regardait, et de dépersonnalisation très très intense, très particulière, et c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique, le fait que la personne soit privée de ses émotions, empêche complètement la personne de pouvoir réagir, de pouvoir aussi trouver des solutions, se battre. Elle est plus du tout, elle est comme vidée, elle est comme, en fait, c'est comme s'il y avait une hémorragie psychique, elle n'a plus d'énergie émotionnelle, et elle va être automatiquement sous emprise de l'agresseur qui va pouvoir faire d'elle ce qu'il veut. Il va pouvoir lui imposer tout ce qu'il veut. Et cette dissociation traumatique aussi, ça va faire qu'il va y avoir une tolérance à la douleur, une tolérance aux violences très très particulière. C'est-à-dire que les personnes, elles savent qu'elles vivent des violences, mais c'est comme si elles n'étaient pas graves ou comme si ça ne les concernait pas. Et du coup, elles vont pouvoir être d'autant plus en danger parce qu'elles ne vont pas évaluer la gravité de ce qu'elles sont en train de vivre. Et si personne ne le fait à l'extérieur, pour elles vont être piégées. Et ça explique pourquoi les victimes peuvent rester aussi longtemps avec un agresseur parce qu'elles sont anesthésiées. Et puis cette anesthésie aussi émotionnelle et physique va faire que les interlocuteurs, les proches, vont avoir un mal fou à comprendre la victime. Ils ne vont rien ressentir parce qu'on ressent grâce à des neurones miroirs qui nous informent sur les émotions d'autrui, mais quand il n'y a pas d'émotion en face de nous, ils ne vont rien ressentir. Donc ils vont avoir l'impression que la personne, elle parle de choses, mais avec indifférence ou avec distance. Donc ils ne vont pas s'inquiéter. Et c'est comme ça que les victimes sont énormément abandonnées. Cette dissociation traumatique aussi, elle présente un risque très important de revivre des violences tout au long de sa vie, parce que les personnes qui sont anesthésiées, qui sont dissociées, vont être des cibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le danger perdure, tant que la victime est exposée à l'agresseur, particulièrement dans l'enfance, par exemple, dans les couples, quand il y a des maltraitances, des violences sexuelles, elle va rester dissociée. Elle peut rester dissociée 10 minutes, un quart d'heure, mais une journée, mais aussi des mois, des années. Elle peut rester dissociée 10 ans, 20 ans et sembler tolérer des situations intolérables. En même temps que cette dissociation traumatique, se produit aussi une interruption du circuit de la mémoire qui fait qu'il va y avoir la mise en place d'une mémoire traumatique qui ne va pas être intégrée par le cerveau, qui ne va pas être contextualisée dans le temps et dans l'espace, et qui va faire revivre à l'identique les pires événements. Donc la personne, elle va revivre continuellement les moments les plus atroces, sans comprendre pourquoi elle est envahie comme ça, aussitôt qu'un lien va les rappeler. Et ça, c'est la mémoire traumatique, c'est un véritable enfer. Tant que la personne est dissociée, cet enfer-là est dans sa tête, mais c'est un peu comme si elle ne le ressentait pas émotionnellement. Et aussitôt qu'elle ne va plus être dissociée, c'est là où ça va exploser. Ça explique aussi pourquoi, par exemple, les femmes victimes de violences conjugales, quand elles sont enfin à l'abri, qu'elles ne voient plus, qu'elles sont plus confrontées, qu'elles sont plus exposées à leur agresseur, à ce moment-là, elles se retrouvent, elles sortent de la dissociation, et c'est souvent à ce moment-là que ça explose en elles, et elles revivent des événements, les événements qu'elles ont vécus. Elles ont des attaques de panique, des angoisses, elles entendent des phrases de l'agresseur atroces, tu vaux rien, tu mérites ce qui était arrivé. privée, tu n'as pas le droit de vivre, etc. Et elles se disent, bah, en fait, il avait raison quand il disait que je ne pouvais pas vivre sans lui, bah, c'est bien la preuve que je ne peux pas vivre sans lui. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font? Et bah, elles peuvent revenir, et quand elles reviennent, l'agresseur a le pouvoir de les dissocier, de les anesthésier. Et du coup, elles semblent aller mieux, sauf qu'elles ne vont pas mieux, bien entendu, parce que quand on est anesthésié émotionnellement, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas impacté. Vous savez, quand vous êtes anesthésié au niveau de la main, c'est pas parce que quand vous mettez votre main sur une plaque électrique, c'est pas parce que vous êtes anesthésié que vous n'allez pas être brûlé. Donc les conséquences vont être d'autant plus graves que les personnes sont dissociées et elles vont être d'autant moins protégées. Ça explique par exemple que pour les violences sexuelles, 83% des personnes qui subissent des violences sexuelles disent qu'elles ne sont ni reconnues ni protégées. Et plus les personnes sont très jeunes, plus ces processus que je viens de vous expliquer, de sidération, de dissociation, de mémoire traumatique va être important. Plus les enfants sont très jeunes, plus ils vont être impactés. Ils peuvent être impactés dès la naissance, voire même l'amygdale cérébrale, elle est active lors du troisième trimestre de la grossesse, donc ils peuvent même être impactés pendant la grossesse. Donc il va falloir vraiment prendre en charge ces victimes, les protéger, comprendre ces éléments-là, ne pas considérer que parce qu'elles n'ont pas pu se défendre, que ce n'est pas elles qui sont en incapacité de se défendre parce que c'est leur personnalité, c'est que c'est du fait de mécanismes de sauvegarde, elles sont en incapacité de se défendre par rapport à un cerveau qui se met en mode dissocié. Donc c'est des conséquences universelles qui touchent toutes les victimes de violences et qui ne sont pas dues à un choix de la victime, mais qui sont liées aux violences. Et dernière chose, on ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Si on a une mémoire traumatique, ça veut dire qu'on a un terrain miné qui peut s'allumer aussitôt qu'un lien, une odeur, un bruit, quelque chose qui réveille les violences, quelque chose qui serre le cou et puis d'un seul coup, c'est l'entraînement qui revient et la personne, elle se met à étouffer. À ce moment-là, les personnes vont devoir mettre en place des stratégies d'évitement et ou des stratégies, ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles se dissocient pour pouvoir s'anesthésier, pour ne pas vivre ces états atroce. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a un risque très important de consommer de l'alcool, de la drogue, de se mettre en danger, parce qu'on fait monter la personne, en fait, sans savoir pourquoi, si elle se met en danger, si elle se fait mal, si elle se brûle, si elle se scarifie. Quand elle fait ça, en fait, elle fait monter le stress, elle fait disjoncter le cerveau, et du coup, elle évite de revivre l'événement. Et ça vaut bien mieux d'avoir une douleur que l'on contrôle, plutôt que de revivre un événement atroce où on a failli mourir, où on a été terrorisé, où ça a été l'horreur. Donc du coup, les personnes vont comme ça essayer de survivre comme elles peuvent, non seulement aux violences, mais aux conséquences des violences. Du fait de cette mémoire traumatique qui appartient à l'agresseur, qui colonise la victime, les victimes peuvent avoir l'impression que c'est elles qui pensent qu'elles sont nulles, qu'elles valent rien, que c'est elles qui sont violentes, que c'est elles qui ont une haine vis-à-vis de soi, alors que c'est en fait la haine de l'agresseur qui est en fait en mémoire traumatique en elle, qui est à l'origine de ces réactions. La mémoire traumatique, en fait, c'est vraiment une mémoire qui n'a pas été intégrée en mémoire autobiographique, qui reste bloquée hors temps, comme une machine à remonter le temps, qui fait qu'aussitôt qu'un lien va rappeler la situation, elle va exploser et faire revivre à l'identique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a vécu une violence extrême dans le noir, quand elle va revenir, on va être dans le noir. Si on a vécu une violence avec des douleurs, les douleurs vont revenir à l'identique, comme si elles se reproduisaient. Ça peut mener les gens aux urgences. Toutes les phrases vont revenir, tous les bruits, et je veux dire, les personnes peuvent même avoir peur d'être folles, tellement c'est violent, tellement c'est énorme, tellement ça c'est incompréhensible. Et cette mémoire traumatique, dernière chose, elle se traite. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner les circuits. Les traumas, c'est un peu comme des fractures, on réduit les fractures en quelque sorte. Et le tissu neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner. Et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. C'est ça toute la différence.
Petite pause musicale. Avec une chanson de Maxwell, This Woman's Work. Les victimes de violences psychologiques ne sont pas identifiables au premier regard. Elles ne le portent pas sur le visage. On peut dire d'elles, pourtant elle avait l'air d'aller si bien, jamais je n'aurais imaginé. Elles sont jeunes ou vieilles, riches ou pauvres. Elles travaillent, ont des postes à responsabilité, dirigent des sociétés ou y sont employées. Elles sont à la retraite, sans emploi, encore étudiantes ou mères au foyer. Leur physique ne compte pas. Elles se trouvent à côté de chez vous, dans votre ville, dans votre rue, parfois dans votre famille. Elles sont sans cicatrices visibles, sans blessures apparentes. Elles sont silencieuses ou bavardes, tristes ou joyeuses. Elles sont, parce qu'elles sont en vie, mais elles ne vivent pas. Elles survivent. C'est un texte de Anne-Laure Buffet, issu de son ouvrage « Victimes de violences psychologiques, de la résistance à la reconstruction ». Dans un contexte de violence conjugale, l'emprise est telle que la victime n'est souvent pas en mesure de partir de son propre fait. Tributaire généralement d'une basse estime d'elle-même, d'un manque réel de confiance en soi, d'un manque ou même l'absence d'amour de soi, elle ne se considère pas en capacité, de manière consciente ou inconsciente, de changer ou d'amorcer un changement dans sa vie. Comment faire seule? Qu'est-ce que je vais devenir? Où aller? Et mes enfants? Avec quel argent? L'avenir proche paraît très insécurisé. La peur de ne pas y arriver, la peur de l'inconnu, la peur des représailles, la culpabilité, la honte, entre autres, empêchent d'avancer. L'isolement instauré par l'auteur des violences durant la relation est loin de favoriser un quelconque départ. Par conséquent, la victime continue de supporter ses violences conjugales qui la détruisent à petit feu. La psychothérapeute américaine Robin Norwood, dans son ouvrage « Ces femmes qui aiment trop », questionne « Pourquoi trouvons-nous si difficile de rompre une relation, de renoncer à un compagnon qui nous fait péniblement faire toutes les figures de ce balai destructeur ?» La raison en est simple. Plus nous trouvons difficile de mettre un terme à une liaison qui nous est néfaste, plus elle mobilise d'éléments pénibles associés aux expériences que nous avons vécues dans notre enfance. Elle explique aussi que si la relation que nous avons eue avec nos parents était une saine relation affective où s'exprimait l'amour, l'intérêt et l'approbation, lorsque nous sommes adultes, nous nous sentons à l'aise avec les gens qui engendrent un sentiment comparable de sécurité, de chaleur humaine et de dignité personnelle. De plus, nous aurons généralement tendance à éviter les gens qui, par leurs critiques et leurs manipulations, nous amoindrissent à nos propres yeux. Nous ressentirons de l'aversion pour leur conduite. Toutefois, si nos parents nous ont traités de façon hostile, critique, cruelle, manipulatrice, autoritaire, servile ou de toute autre façon semblable, voilà ce qui nous semblera « correct » entre guillemets, quand nous rencontrerons quelqu'un chez qui se manifestent, même très subtilement, des traces de ses attitudes et de ses comportements. Nous nous sentirons bien avec des gens qui suscitent en nous d'anciens types de relations malsaines et peut-être contraintes, mal à l'aise, avec des gens plus gentils, plus doux, plus sains. Ou encore, nous serons tout simplement ennuyés par des personnes plus saines parce qu'il n'y a pas de défi de les rendre heureuses ou de gagner leur affection ou leur appui. L'ennui cache un sentiment diffus ou aigu de malaise que les femmes trop aimantes ressentent lorsqu'elles sont privées de leur rôle coutumier, aider, espérer, mieux veiller au bien d'autrui qu'au sien propre. Nous avons donc besoin de nous sentir transportés par l'incertitude, la douleur, la déception et le combat pour sentir que nous sommes en vie. Robin Norwood préconise 10 étapes à appliquer, à mettre en œuvre pour sortir de ce qu'elle appelle le marécage, ce cercle vicieux dans lequel est emprisonnée la victime. Ce sont 10 étapes, simples mais pas faciles pour autant. Elle les énumère dans l'ordre chronologique le plus courant. Premièrement, chercher de l'aide. Emprunter un livre. Prendre un rendez-vous avec un thérapeute, faire partie d'un groupe pour l'amélioration de soi et faire l'effort d'y aller, se rendre à un centre de consultation, contacter la police. En fait, chercher de l'aide signifie faire quelque chose, agir, poser un premier geste, prendre une initiative. Deuxièmement, faites de votre guérison une priorité vitale. Pour la première fois de votre vie, peut-être, vous vous sentez véritablement importante et suffisamment digne de vous occuper de vous-même. Troisièmement, trouvez un groupe de soutien formé de personnes compréhensives qui se trouvent dans votre situation. C'est ici que débute le développement de l'acceptation de soi, une condition absolument vitale de votre guérison. Quatrièmement, développez votre vie spirituelle par la pratique. Vous êtes disposé alors à patienter, à vous ouvrir, à attendre qu'on vous conseille. Apprenez à renoncer à la peur avec les « que se passe-t-il ?» et au désespoir avec les « si seulement », et à les remplacer par des affirmations positives au sujet de votre vie. Cinquièmement, cessez de diriger et de contrôler les autres. Cela signifie être détaché. Cela implique, entre autres, que vous abandonniez votre rôle de personne secourable. Sixièmement, apprenez à ne pas vous laisser prendre au jeu. Lorsque vous jouez au jeu du sauveur, persécuteur, victime, c'est un peu comme si vous faisiez une partie de ping-pong. Vous renvoyez la balle quand elle vous arrive. Il importe maintenant que vous développiez de nouveaux moyens pour entrer en communication avec vous-même et avec les autres. Septièmement, envisagez courageusement vos problèmes et vos défauts. Ayant abandonné les jeux et renoncé à diriger et à contrôler les autres, vous pouvez vous attaquer maintenant à vos propres problèmes, parce que rien ne distrait plus votre attention en ce qui a trait à votre propre existence, à vos ennuis et à vos souffrances. Cela signifie également que vous scrutez de très près votre présente existence, pour en dégager à la fois ce qui vous valorise et ce qui vous gêne ou vous rend malheureuse. Épluchez tous les bons et mauvais souvenirs, les réussites, les échecs, les occasions où vous avez été blessé et celles où vous avez blessé. Une fois engagé dans ce processus, ne vous arrêtez pas avant d'avoir fait une exploration aussi complète que possible et par écrit. Huitièmement, cultivez ce qui cherche à s'épanouir en vous. Vous épanouir consiste à vous consacrer aux activités qui vous intéressent. Neuvièmement, devenez égoïste. Votre bien-être, vos désirs, votre travail, vos plans et vos activités viennent en premier et non en dernier, avant et non après que les besoins de tout le monde ont été satisfaits. Enfin, partagez avec les autres les expériences que vous avez vécues et ce qu'elles vous ont appris. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. 100 headlights, making me blind. All of your pleasures, catching my eye. If I jump once, then I never think twice. But your temptation's making me stay another night. And my senses only lie to me, lie to me. I don't know how it feels so right to me, right to me. I gotta check myself before I get what I want. Find out it's not what I thought it was. And you know why? Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Doesn't even matter if I'm wrong or right. Cause if I don't walk, I keep messing around. And I'll be falling all the way down. Tell myself leave while I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until
till I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again, telling me not to pretend. There's any use even trying to get you out my head. So I lift my feet off the ground and I'm gonna walk right out. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Turn my head and shut my eyes. Won't get caught in the old fly trap. Run away, never come back. No way I'm going down like that. No, no, run away, run away. No, I can get caught up again. No way, no, no. Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute.
Il est plus que prépondérant et urgent de protéger la femme victime de violences conjugales et de protéger les enfants lorsque celle-ci est maman, parce qu'en effet, les conséquences des violences conjugales sur l'enfant et son développement sont dramatiques. Non seulement l'enfant doit supporter les violences faites à l'encontre de sa mère, mais il doit aussi supporter les violences qui lui sont également faites par ce même bourreau. L'émission Infrarouge, diffusée sur France 2 le 26 novembre 2019, a proposé un documentaire « Enfants de femmes battues, les oubliés ». On y retrouve des témoignages d'adultes qui ont été enfants victimes de violences conjugales et de violences directes. Marie Drucker questionne justement « Comment se construire au milieu des coups et des insultes ?» On les appelle les oubliés parce que longtemps on n'a pas donné d'attention et d'importance à ce que les enfants vivent et ressentent dans ces contextes douloureux. Vous pouvez trouver une autre vidéo de Muriel Salmona relative à une conférence intitulée « Les violences faites aux enfants » dont vous trouverez le lien sur la page Wix de l'émission EJE Square. Les violences faites aux enfants est la première cause de mortalité dans l'enfance. L'impact neurologique, autrement dit au niveau du cerveau, est conséquente sur la santé physique et psychique de celui-ci. L'auteur insiste aussi sur le fait que les violences faites aux enfants est un problème de santé publique majeur. Je la rejoins complètement lorsqu'elle dit que protéger les enfants, c'est changer le monde. En effet, son site internet mémoiretraumatique.org revient en détail sur les conséquences des violences faites aux femmes ainsi que celles des violences subies par les enfants. Ces enfants, je cite, « développeront des conséquences psychotraumatiques graves et durables sur leur santé physique et psychique avec une grave souffrance mentale, des retentissements sur leur développement psychomoteur, leur scolarisation, leur socialisation et leur vie affective à long terme. Ils auront un risque d'être à nouveau victimes de violences tout au long de leur vie et un risque également important de présenter des conduites agressives, des conduites à risque, des conduites délinquantes et des troubles psychiatriques à l'âge adulte. 40 à 60% d'hommes violents avec leurs partenaires ont été témoins de violences conjugales dans l'enfance. Les enfants traumatisés par des violences conjugales présentent davantage de problèmes de santé, retard de croissance, allergies, troubles ORL et dermatologiques, maux de tête, maux de ventre, troubles du sommeil et de l'alimentation. Et ils sont plus souvent victimes d'accidents, 8 fois plus d'interventions chirurgicales. Ils présentent fréquemment des troubles de l'adaptation, comme les phobies scolaires, l'angoisse de séparation, l'hyperactivité, irritabilité, difficultés d'apprentissage et des troubles de la concentration. Ils présentent fréquemment aussi des troubles du comportement, 10 à 17 fois plus que des enfants dans un foyer sans violence, dont des comportements agressifs vis-à-vis des autres enfants. 50% des jeunes délinquants ont vécu dans un milieu familial violent dans l'enfance. Les troubles psychotraumatiques peuvent représenter pour ces enfants un risque vital, particulièrement à l'adolescence, avec une augmentation du risque d'avoir un accident mortel et une augmentation importante du risque suicidaire, qui est multiplié par 20. Les enfants sont particulièrement exposés à des troubles psychotraumatiques lors des violences conjugales du fait de leur vulnérabilité, de leur dépendance affective et physique, de leur immaturité psychique et physiologique, de leur impuissance et de leur situation d'être en construction et en devenir. Comme les enfants témoins de violences conjugales vivent dans un climat de grande insécurité et de terreur, toute leur énergie passe dans la mise en place de stratégies de survie et de défense. Les enfants subissent les violences conjugales souvent dès leur vie fœtale. Dans 40% des cas, les violences conjugales commencent pendant la grossesse et peuvent être plus graves pendant la grossesse pour 2 femmes sur 3. 4 fois plus de femmes signalent de très mauvais traitements pendant la grossesse, coups, menaces avec armes, agressions sexuelles. Les femmes qui subissent des violences conjugales ont un moins bon suivi de leur grossesse et plus de facteurs de risque, tabagisme, prise d'alcool. Le fœtus se retrouve alors en danger. Il est exposé à un stress physiologique important, avec des retentissements cardiovasculaires et neurologiques, à un risque d'avortement, 2 fois plus de fausses couches chez les femmes victimes de violences conjugales, à une mort in utero par décollement placentaire, aux ruptures utérines, à une hémorragie fœto-maternelle, à un accouchement prématuré, avec 37% d'augmentation de risque, une souffrance néonatale à un petit poids de naissance, 17% d'augmentation de risque. Après la naissance, le nouveau-né se retrouve doublement en danger, directement par la violence du père, qui peut s'abattre sur lui, dans 3 cas sur 4 de violences conjugales, et indirectement par les violences que la mère continue à subir. Dans 90% des cas, les violences conjugales continuent après l'accouchement. Et qui vont retentir sur les soins donnés à l'enfant et sur le lien mère-enfant et être traumatisantes pour l'enfant. En effet, le nouveau-né est très sensible aux effets de la violence qui l'entoure et il va développer d'importants troubles psychotraumatiques qui risquent de le mettre encore plus en danger. Les pleurs continuelles, les troubles importants du sommeil et de l'alimentation, le retard de développement psychomoteur peuvent être des facteurs de risque supplémentaires de maltraitance, comme le syndrome du bébé secoué et l'étouffement. L'enfant grandit alors dans un climat d'insécurité, développe une grande détresse face aux violences, face à son incompréhension et son impuissance, face à la menace de voir mourir un de ses parents, de mourir lui-même ou d'être abandonné. L'enfant est d'autant plus exposé à des conséquences psychotraumatiques que les violences conjugales ont commencé très tôt, qu'il est l'aîné ou qu'il est enfant unique, que les violences sont graves et fréquentes, que l'enfant s'interpose et subit des violences directes. L'enfant va être d'autant moins exposé à des conséquences psychotraumatiques que sa mère ou le parent victime a des comportements de soutien et de compréhension face à sa souffrance et qu'elle est chaleureuse avec lui, qu'elle puisse lui parler, le rassurer et qu'elle puisse donner des repères. Une bonne estime de soi et de bonnes compétences sont un facteur de protection. Aux femmes victimes de violences conjugales, appelez à l'aide. C'est de votre vie et de la vie de votre enfant dont il s'agit. Ne restez pas sans voix. Osez parler. Osez agir. Here comes a wave meant to wash me away. A tide that is taking me under. Swallowing sand left with nothing to say. My voice drowned out in the thunder. But I won't cry, and I won't start to crumble. Whenever they try to shut me or cut me down, I won't be silenced. You can't keep me quiet. Won't tremble when you try it. All I know is I won't go speechless. Try to suffocate me. N'hésitez pas, contactez le 3919, portez plainte au commissariat et faites-vous accompagner. Frappez aux portes des structures pouvant vous soutenir et vous accompagner dans vos démarches, comme le CIDFF et les associations Solfa. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Nourrissez votre fort intérieur de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous renforce. C'est en prenant soin de vous que vous prendrez soin de votre enfant. N'hésitez pas à partager les liens que vous trouverez sur le site Wix de l'émission. Il y a un blog où vous pouvez laisser vos commentaires. Faites-nous part de vos ressentis, de vos avis, de vos expériences. Je vous remercie de votre écoute et de nos futurs partages. Je vous dis à bientôt dans votre prochaine émission EJE Square. EJE Square, littérature, conférences, revue de presse. EJE Square, ensemble pour la petite enfance.